Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. C'est pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. En mémoire à tous nos mutins, c'était Lily de Villerue.
Oui, bonjour, c'est Valérie de la Guadeloupe. Écoutez, je viens d'entendre ce discours du professeur Lordon, fabuleux, vraiment fabuleux. Jamais j'ai entendu quelqu'un parler d'une aussi belle façon et donnant autant d'espoir. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Je vous remercie.
Oui, salut Daniel Mermet, c'est Jean-Charles là de Dijon. Tu commences à m'enquiquiner, Mermet, parce que je peux plus bosser, moi, entre 15h et 16h, là. Tes émissions sont trop intéressantes et franchement, je suis scotché dans ma bagnole et je peux pas faire mes visites de pharmacie comme je voudrais, quoi. C'est trop clair, tes émissions. Alors, tu fais chier, Mermet, tu fais chier, mais continue quand même. Allez, salut.
Bonjour, Daniel. Donc, voilà, je suis prof en Sud-Ardèche. Je m'appelle Claudine et je viens de rentrer de mon collège, de ma matinée de travail, et avant d'attaquer mon après-midi de copie et de correction et de préparation. Et j'apprends, sur rue 89, allez-y, vous serez édifiés, que le ministère de l'Éducation nationale fait un appel d'offres pour faire surveiller les professeurs. Oui, nous. C'est un marché. Un marché qui propose aux sociétés de surveillance de savoir qui fait quoi, repérer les leaders d'opinion, les lanceurs d'alerte, analyser notre potentiel d'influence, notre capacité à se constituer en réseau, décrypter nos sources de débat, nos modes de propagation, repérer des informations signifiantes, suivre des informations signifiantes dans le temps, relever des indicateurs quantitatifs, le volume de nos contributions, le nombre de nos commentaires, notre audience. Rapprocher ces informations et les interpréter, anticiper, évaluer les risques de contagion et de crise, alerter, préconiser en conséquence. Oui, c'est bien des professeurs qu'il s'agit, c'est bien un appel d'offres, 100 000 euros par an hors taxe, 122 000 euros par an hors taxe pour l'enseignement supérieur et la recherche. Vous voulez en savoir plus? Allez sur rue 89, vous serez édifiés. 8 pages à imprimer, très intéressant. Qui va nous surveiller? Les profs sont à surveiller? Mais depuis quand? Mais dans quelle société vivons-nous? Mais de qui vous méfiez-vous? Soyons tous actifs. Il est urgent. Claudine, Sud-Ardèche.
Ouais, et ben on est allé sur rue 89 et en effet, Claudine de Sud-Ardèche donne une information assez renversante. Effectivement, le ministère de l'Éducation nationale veut renforcer la surveillance de ses fonctionnaires trop critiques. Et pour cela, il fait une appel d'offres de 220 000 euros par an pour surveiller l'opinion des profs sur le net, mais aussi dans les médias traditionnels, etc. Cette affaire est passionnante. Allez voir, rue 89, ce monsieur Darcos est parfait. Aujourd'hui, nous, on va pas loin du tout. On reste ici, à France Inter. À France Inter, vous le savez peut-être, nous sommes logés avenue du Général Mangin. L'avenue du Général Mangin, c'est une avenue qui se finit en impasse. Et puis, alors, on pense à une avenue opulente, large, etc. Bon, non, c'est une rue, une petite rue du très morne 16e arrondissement de Paris. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le général Mangin. Qui était ce général Mangin ? Eh bien, à l'heure où on se félicite à travers le monde, à juste titre, de que les États-Unis se soient dotés d'un président noir, sinon métis, mais enfin, c'est quand même une très grande révolution. À l'heure où un livre paraît qui s'intitule « Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy », signé de toute une série d'historiens, de chercheurs et d'intellectuels africains, avec une préface d'Elika Mbokolo et un ouvrage placé sous la direction de l'admirable Adame Ba-Konaré à destination de notre président de la République et de son porte-plume, Monsieur Guénon. Vous connaissez bien sûr l'histoire de ce célébrissime discours de Dakar du 26 juillet 2007 adressé à l'Afrique avec les propos que vous savez. C'est pas mal d'ailleurs, on parle de Darcos maintenant, on parle de Guénon et de Sarkozy, c'est un peu le même esprit, celui de notre beau pays aujourd'hui. Voilà pourquoi nous restons dans cette rue chez nous, ici, France Inter. C'est pas le Mangin Palace, mais c'est l'avenue du Général Mangin. Parce que Mangin fut un héros de la guerre de 1914. Mais c'est pas seulement ça, il fut aussi l'inventeur de la force noire. Et oui, le nègre est très très costaud. C'est vraiment de la chair à canon de premier choix. C'est ainsi que Mangin voyait les choses. En gros, ça mérite un petit peu quelques précisions, quelques éclairages, et c'est ce qu'on va faire d'ici à 16h. L'avenue du Général Mangin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, c'est le 11 novembre, évidemment, on n'a pas manqué de vous rappeler de la chanson de Craon, qu'il faut prononcer crâne, comme vous savez. Le 11 novembre, c'est le jour d'une phrase la plus belle qui a été dite et la plus juste sur cette guerre. C'est une phrase attribuée à Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels.
Oui, bonjour, c'est Hossein de Lieu-dit à l'appareil. Je voulais vous informer que Frédéric Lordon sera présent au lieu-dit ce vendredi 14 novembre à 20h pour justement nous parler de son livre « Jusqu'à quand pour en finir avec les crises financières ?» Donc voilà, le lieu-dit, l'adresse c'est 6 rue Sorbier, Paris 20e. Merci.
Oui, bonjour. J'ai été très émue par le bel hommage que vous avez rendu à Mama Africa en début d'émission. Et je tenais à vous en remercier, une auditrice africaine. Au revoir.
Salut Mirmet, toute l'équipe. Mercredi 12, c'est la deuxième édition du repère de la bâche qui suit à Saint-Montant. Saint-Montant, c'est sud de Montélimar, côté Ardèche. Ça tient toujours au petit bistrot, à l'entrée du village, à partir de 19h jusqu'à à peu près 22h. Au menu du jour, vive la crise. Pas celle des Montants, bien sûr, qui n'était d'ailleurs pas de Saint-Montant, mais celle des opères de croissance, entre autres. Alors merci à tous, et puis à demain. Thierry de Saint-Montant.
Fallait bien que ça arrive. Après 2 semaines de répit pour cause de vélo dans les arbres, les 9 antennes de Boston dans les Landes entendent de nouveau le bruit de la machine à tronçonner. Le grand nettoyage commence mercredi matin à l'aurore. Ce site naturel emblématique doit être détruit pour construire cette autoroute A65, ruineuse et inutile. Alors, pour célébrer l'événement, Nous vous invitons dès le petit matin à venir casser la croûte dans la forêt sur le site des Neuf Fontaines. Passez prendre un café avant de partir au boulot, venez passer la journée sous les arbres, il y aura du café, du pain, de quoi manger. Amenez ce que vous voulez pour manger, pour boire, mais surtout pour vous asseoir, table et chaise de camping. À demain. Et s'il pleut, prévoyez le parasol. C'était Sophie de l'alternative régionale Langon-Pau. Si vous voulez plus de renseignements, www.asso-arlp.org. Merci et à demain.
Bonjour, je suis Paulette Rochette. Je voulais dire à Daniel Mermet que ses émissions sur la guerre de 14 m'ont toujours beaucoup plu. Et en cette journée de commémoration, je crois que c'est la seule fois que j'ai pleuré en écoutant une de ses émissions sur Crown. Eh bien, encore merci, et à lui tout seul, il vaut tous les discours. Au revoir.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on part rejoindre les tranchées, notre place est si utile. Personne ne veut plus marcher, et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu tout. Cette guerre infâme, c'est à Crown, sur le plateau, qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes des sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées pour défendre leur bien. Car nous n'avons rien, nous autres pauvres puretins. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.
American soldiers, avez-vous vu des soldats américains? Where are our headquarters? Où est notre quartier général?
I want to find my regiment.
Je veux rejoindre mon régiment.
Have you seen the enemy?
Avez-vous vu l'ennemi?
I am short of cartridges.
Il me faut des cartouches.
Can you give me any information about the enemy?
Pouvez-vous me donner des renseignements sur l'ennemi?
We are going to attack.
Nous allons attaquer.
Look out, a shell.
Attention, un obus.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, le général Mangin.
Flight number 2, arriving from New York.
Quel quel rapport entre une rue, un bol de chocolat et un 11 novembre? Eh bien, la réponse est un général. C'est le général Mangin, Charles Mangin. La rue, eh bien, la rue, c'est ici, c'est l'adresse de France Inter, 7 avenue du général Mangin à Paris, dans le 16e arrondissement. Voilà pour la rue. Le bol de chocolat, eh ben, c'est du Banania. C'est le Yabon de Banania, avec la figure joviale du bon nègre en chéchia, le tirailleur sénégalais. Et l'on va voir que le général Mangin, surnommé aussi le boucher de Verdun, fut aussi, selon certains, le boucher des Noirs. Et il fut à l'origine du fameux Yabon Banania. En effet, la France doit au général Mangin l'invention du concept de force noire, c'est-à-dire l'utilisation des Africains d'Afrique noire comme chair à canon dans les fameux régiments de tirailleurs africains, de tirailleurs sénégalais. 30 000 de ces tirailleurs sénégalais sont morts durant la Grande Guerre dont on célèbre aujourd'hui la mémoire. 30 000, ça fait plus de 2 000 tonnes de chair à canon. Combien de tonnes au total? Combien de tonnes de chair d'hommes morts? Ouais, ça peut se compter en poids, même s'il y en avait guère. Évoquer la figure du général Mangin, c'est évoquer les troupes coloniales dans la guerre de 1914, c'est évoquer la colonisation, évidemment, c'est mesurer aussi un basculement de mentalité. On va essayer avec un historien, Nicolas Bancel, maître de conférence à Paris 11, et puis Éric Dereaux, qui est réalisateur de films documentaires, qui est chercheur associé au CNRS, collectionneur de tout ce qui concerne ces tirailleurs coloniaux, tirailleurs africains. On va essayer de... Évidemment qu'il est facile aujourd'hui de décrier et d'insurger contre les horreurs de cette époque, mais on va essayer de se replacer dans la mentalité du temps. C'est très difficile, évidemment. Mais quand même, pour essayer de mesurer ce basculement extraordinaire qui a pu se produire en l'espace d'un siècle, un peu plus d'un siècle, entre l'acceptation totale qu'il y avait du colonialisme et aussi de la guerre, et aussi de la place que ces Africains, ces coloniaux pouvaient avoir dans l'univers, dans le monde et dans cette guerre. C'est là-bas si j'y suis, et c'est le général Mangin qui vous salue.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfécit. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise au guérilla, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Même aux colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Même aux colons, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Les troupes noires ne nous donneront pas seulement le nombre, elles sont composées de soldats de métier, habitués à toutes les privations et à tous les dangers, telles qu'aucune puissance n'en possède en Europe. Elles ont précisément les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne, la rusticité, l'endurance, l'absence de nervosité et une incomparable puissance de choc. Ces lignes ont été écrites en 1910 par un certain colonel Mangin, il n'était pas encore général, et ces lignes figuraient dans un ouvrage qui fit grand bruit à l'époque, qui était intitulé « La Force Noire ». Et cette force noire, vous avez compris qu'il s'agit des Africains d'Afrique noire, qui, dans l'esprit du colonel Mangin, devait, eh bien, remplacer ou compléter nos forces militaires françaises face à un ennemi qui allait être, on ne savait pas encore bien à l'époque si ce serait l'anglais ou l'allemand, mais en tous les cas, on savait bien qu'on allait avoir un ennemi très important et qu'il fallait se préparer. Alors, eh bien, on avait l'idée d'aller recruter dans nos belles colonies, dans notre empire. La France, faut-il le rappeler, avait un empire rose, vous vous souvenez, peut-être, vous avez peut-être vu sur les cartes d'avant la colonisation, à quoi ressemblait notre beau pays, si grand, si vaste et si extrême. Alors, l'air de rien, cette phrase et cette idée qui a mené effectivement à une image qui nous est très très familière, qui est celle du noir, de l'Africain représenté sur les boîtes de banania, toujours aujourd'hui, eh ben, ça a été un enjeu très important dans les discussions, dans l'histoire, et puis aussi, ça a été surtout une histoire très importante pour ceux qui étaient concernés, c'est-à-dire ces coloniaux. Il n'y eut pas que des Africains d'Afrique noire. Il y a eu des Maghrébins, des Malgaches, des gens d'Extrême-Orient, du Tonkin, de l'Indochine, aussi d'autres vieilles colonies, comme on dit, de Guyane ou des Antilles, comme la dame l'évoquait tout à l'heure, aussi bien que de Polynésie, que de Nouvelle-Calédonie. Au total, je crois, plus de 600 000 de ces hommes sont venus se battre entre 1914 et 1918. Alors, on a avec nous Nicolas Bancel, qui est historien, et Éric Dereau, qui est spécialiste, collectionneur et réalisateur de films documentaires sur cette période, qui vont nous dire un peu d'abord qui était le général Mangin.
La France honore l'histoire des peuples qu'elle protège.
Il est en fait connu parce qu'il participe à la mission Marchand. Il est le second de la mission Marchand. Et vous savez que cette mission, je la resitue un tout petit peu. C'est 1898, si mes souvenirs ne me trahissent pas. Et c'est une mission d'exploration qui est aux limites de l'Égypte et qui va rencontrer en fait qui va se heurter aux forces britanniques. Au général Kitchener, si je me souviens bien.
Pardon Nicolas, si je rebondis, c'est une expédition. À l'époque, l'Afrique obsède les explorateurs, qui sont déjà en partie des conquérants, avec ce qu'on appelle le blanc des cartes. Il faut à tout prix remplir le blanc des cartes. Le blanc des cartes, ça veut aussi dire contrôler des fleuves, contrôler des sources de fleuves et marquer les territoires. Et ce qui obsède à l'époque déjà les Anglais, qui eux l'ont largement exploré, ce sont les sources du Nil. Et Marchand, le capitaine Marchand, décide une expédition invraisemblable qui part de Luango, qui part du Congo, que les Français occupent, du fleuve, des rives, sur l'océan Atlantique, et va traverser tout le continent africain, d'ouest en est, jusqu'au Nil. Et là, sur le Nil, il arrive sur le Haut-Nil, qui n'appartient réellement à personne, il arrive à Fashoda et il plante le drapeau français. Et à ce moment, les Anglais disent, mais pas du tout, le Haut-Nil a déjà été reconnu par nous, c'est à nous, hiver, une période de tension extrêmement vive, et la diplomatie française va finalement s'écraser, on dirait aujourd'hui, et Marchand être obligé, alors qu'il était prêt à se battre, à continuer et à finir en Éthiopie. Et cette expédition Marchand va avoir une extraordinaire retombée dans la presse populaire française, parce qu'on est toujours très anglophobe, et évidemment, ça devient le héros. Et Marchand devient un héros extrêmement populaire. Il est en vignette sur toutes les boîtes de poudre pour enfants, il fait la première page des journaux. C'est un personnage qui emblématise un peu cette France qui cherche à... Faut pas oublier le contexte à l'époque, la France cherche à revenir, à balayer la honte de 70. On prépare déjà la revanche avec l'Allemagne. C'est la grande époque de la colonisation triomphante. Et là, vraiment, Marchand, il représente cette France qui cherche à reprendre sa place à travers le fait colonial.
Et Mangin est là.
Alors, ce qui est intéressant avec la mission Marchand, si vous m'autorisez, c'est que il y a une poignée d'Européens, ils sont à peine une dizaine ou une quinzaine, il y a des centaines de tirailleurs africains. Et ce qu'on va retenir comme leçon de la mission Marchand, c'est que tout ça a été possible grâce à ces tirailleurs. D'ailleurs, en 1899, ils défilent, pour le 14 juillet 1899, ils défilent derrière Marchand à Longchamp. Et c'est petit à petit comme ça que dans l'iconographie patriotique, dans l'iconographie populaire, commence à surgir la figure du tirailleur. Et je crois que c'est comme ça que Marchand, mais surtout Mangin, vont commencer à réfléchir à l'utilisation, la pratique de ces bras noirs.
Bien 50, leurs yeux sont comme des miroirs. Amourant leur bouche plaisante, les Turcos sont des Français noirs. Alors, sans tambour ni trompette, on dit bondir nos tirailleurs. À 10 minutes, place nette, il n'existait plus d'artigueur. Quand il s'effère de se battre, les six canons se trouvaient pris, les bras de Turcos sous meurtris, les Turcos n'étaient plus que quatre. Les Turcos sont de bons enfants, les Turcos sont de bons enfants, mais ils ne trouvent pas qu'on les gêne. Autrement, la chose est certaine, les Turcos deviennent méchants. Ça n'empêche pas les sentiments, les Turcos sont de bons enfants.
Le fait... sans doute le plus important, ou l'un des plus importants de la Première Guerre mondiale, a été le recrutement et l'utilisation de troupes indigènes. Depuis 1910, le lieutenant-colonel, j'ai dit colonel, c'était lieutenant-colonel Mangin, a tenté de populariser l'idée d'une force noire, c'est le titre de son ouvrage, de son livre le plus connu. Il a popularisé l'idée de recruter en Afrique noire des hommes et pour constituer des troupes également en Afrique du Nord. Je disais tout à l'heure que le chiffre total de ces troupes indigènes, de cette contribution coloniale, était de 600 000, c'est un peu plus, c'est 610 000 hommes venus de partout, plus 240 000 qui ont été recrutés pour travailler dans les usines françaises, souvent les usines d'armement, et on a déploré 81 000 tués et disparus parmi ces troupes coloniales. Et sur ces 81 000 tués et disparus, il y eut entre 35 000 et 40 000, selon les sources, tirailleurs africains qui furent tués ou disparus pendant ce qu'on ose encore appeler la Grande Guerre. On est avec Éric Dereux et Nicolas Bancel sur ce thème des tirailleurs sénégalais.
Je crois qu'on arrive justement à une question intéressante. Je fais un peu l'esprit de l'escalier, je rebondis sur ce que dit Eric. Une question intéressante, c'est effectivement l'utilisation des tirailleurs sénégalais. Comme je l'ai dit, on a une période de commémoration où on célèbre à juste titre la participation des tirailleurs sénégalais dans la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais il ne faut pas oublier quand même que ce corps est un corps spécifique qui a servi aussi à conquérir des zones coloniales en Afrique. Ce sont donc des gens qui ont été instrumentés en quelque sorte par l'armée française pour la conquête de leur propre pays. Donc je crois que ça soulève un certain nombre de questions qui me semblent intéressantes.
Comment se passe le recrutement ? Est-ce que ça se passe bien ? Les gars viennent avec plaisir ou résistent ?
Mais il y a plusieurs types de recrutement. Il y a un recrutement, vous savez que l'iconographie coloniale, mais j'en connais, a beaucoup insisté sur un seul type de recrutement, c'est celui de la libération des esclaves qui étaient victimes de la traite transsaharienne. Et donc là, on a en quelque sorte la préfiguration de la mission civilisatrice de la France, un thème qui sera appris énormément dans la propagande coloniale. On libère les esclaves et on les incorpore aux tirailleurs sénégalais. Alors, ce type de recrutement a effectivement existé, c'est incontestable. Mais on en a d'autres.
Et les tirailleurs sénégalais sont utilisés pour la pacification, c'est-à-dire la conquête de leur propre pays, c'est ça ?
Comme l'a dit Eric, au départ, effectivement, ce sont des missions de protection. On n'est pas encore au moment de leur création, on n'est pas dans une période d'expansion militaire à proprement parler. On est dans une période où il faut protéger le commerce, les comptoirs, et on commence à faire de grandes exploration, des missions d'exploration à l'intérieur des terres, dans lesquelles des colonnes de tirailleurs sénégalais vont en quelque sorte sécuriser les convois qui sont soit des convois d'exploration militaire à destination de création de cartes, de zones d'influence dans la perspective éventuelle d'une colonisation, soit même des missions scientifiques. On est aussi dans la découverte, je dirais, du continent du point de vue humain. Il y a des missions ethnologiques, enfin qu'on n'appelle pas ethnologiques à l'époque, mais d'exploration dans lesquelles ils vont servir évidemment à la sécurisation.
Jusqu'à la fin du 19e, les tirailleurs sont donc levés, comme l'a dit Nicolas, sur ce vieux fond d'esclaves libérés.
Mais pas seulement.
Aussi, on joue évidemment comme quand la colonisation va vraiment se sédentariser à partir de 1870, 1880, on va aussi jouer des antagonismes présupposés d'une population sur une autre. Donc, on va recruter dans une région des supplétifs de façon à aller casser la gueule de la région suivante parce qu'ils sont réputés se haïr depuis des temps immémoriaux. Et puis, on va donner des récompenses aux tirailleurs. C'est très important parce que avant que ce soit une troupe qui soit réellement réglementée, elle le sera avec Federbe en 1857, mais ça va mettre très longtemps à se mettre en place. On va évidemment, il faut leur accorder en échange un droit de suite, le fait de pouvoir s'emparer des biens et des femmes. Très souvent, quand on lit les récits des Occidentaux, des Européens qui commandent ces colonnes, un des premiers butins que prennent les tirailleurs sont les femmes, parce qu'il ne faut pas oublier, et d'ailleurs on le retrouvera dans le discours de Mangin plus tard, que ce qui coûte très cher, c'est de se marier, c'est le prix à payer pour une dot. Donc un tirailleur à qui on va laisser s'emparer de plusieurs femmes ou de troupeaux, ça devient évidemment une affaire extrêmement intéressante. Et c'est comme ça que la plupart des colonnes de conquête sont rétribuées.
Les grands chefs blancs se penchèrent au chevet des misérables et s'informèrent de leurs besoins.
Moi, ce qui me semble très intéressant du point de vue socio-historique dans la formation des tirailleurs sénégalais, c'est que pour la première fois, on a un groupe social, appelons-le comme ça, qui va être un groupe social intermédiaire, finalement situé à l'interface entre les autorités coloniales et puis les sociétés colonisées d'où ils proviennent. Les recrutements, pour bien expliquer, les recrutements sont divers. Hein. Ce sont des recrutements qui se font par libération d'esclavage, c'est comme l'a dit Eric, par opposition d'une ethnie à une autre. C'est aussi souvent des recrutements qui se font avec des gens qui sont plus ou moins les proscrits des villages. Donc, des gens qui trouvent un moyen, à un moment donné, aussi, d'accéder à un niveau supérieur sur le plan de l'échelle sociale. On voit, en fait, dans l'expérimentation, la formation de ce groupe, ce qui, pour moi, constitue les prémices de la doctrine d'assimilation. C'est-à-dire qu'avant d'être réellement formulée par les Républicains en 1880, ça se joue, en fait, dans le corps des tirailleurs sénégalais. Des gens qui vont ne pas être vraiment dans la société coloniale, parce que on les accepte en tant que militaires, mais enfin, il y a tout un tas de signes qui va les distinguer au sein de l'armée, et de manière volontaire, de manière à leur garder un statut qui est quand même un statut d'infériorité, et en même temps, ils sont plus dans la société africaine non plus. Donc, ils accèdent à une modernité, effectivement, ils vont accéder notamment à l'économie monétaire, ce qui est quand même un pas énorme. Ils ont une seule, même si elle est modeste, et ils vont être instrumentés, on le voit bien, c'est dès le départ, ils sont instrumentés dans les conquêtes territoriales en Afrique noire, dans la conquête du Maroc et de la Tunisie, et puis plus tard, dans les guerres coloniales.
On est en train d'évoquer une époque, l'époque coloniale, et tout ce que vous dites là est choquant pour nous aujourd'hui, qui avons dépassé l'époque coloniale. Hein ? On est en train de raconter un pays, un empire, la France, qui va prélever des forces humaines pour en faire de la chair à canon. Notre lecture actuelle, est-ce qu'à l'époque on trouvait cet esprit anticolonial qui nous a gagné à peu près tous aujourd'hui?
Non, il ne faut pas non plus oublier qu'à l'époque, on n'a évidemment pas conscience de ça, on a même conscience d'autre chose. Quand on lit les textes dans la presse française avant 1914, on n'a absolument pas idée que ces hommes qui viennent au secours de la France vont nous créer des devoirs. Au contraire, c'est l'inverse. Il y a un texte du général Messimi, qui est ministre de la guerre et qui a été un colonial, qui dit « L'Afrique nous a coûté des flots d'or et de sang. Cet or et ce sang, l'Afrique doit nous le rendre au centuple. » C'est-à-dire qu'en échange de ce qu'a apporté la colonisation française, la mission civilisatrice, mais non seulement en Afrique noire, au Maghreb, en Indochine, il faut bien... C'est important l'Indochine, hein, parce que c'est une des colonies qui est censée marcher. Eh bien... en échange de ce que la mère patrie a amené, eh bien, ces enfants que nous avons sortis pratiquement des ténèbres, doivent évidemment payer leur écho. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'en 1914 jusqu'à 1918 est vu l'engagement, mais c'est à nouveau comme ça en 1939 et en 1945 qui est revu l'engagement de ces contingents. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression de faire venir de la chair à canon. On a au contraire l'impression que ces gens vont enfin rendre la monnaie de la pièce.
C'est quand même un basculement de mentalité.
Mais complètement.
Total.
Et quant au courant anticolonial, Nicolas, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, peut, je crois, aussi en témoigner. Il est tout à fait mineur.
Mais le courant anticolonial, je dirais, anticolonial tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, donc qui est contre le système colonial lui-même, il est ultra minoritaire. Il est, bon, avant la Première Guerre mondiale, vous avez quelqu'un comme Félicien Chalaille, mais sinon, vous avez notamment un petit groupe d'anarcho-syndicalistes qui édite un journal qui s'appelle L'Assiette au Beurre, qui est la seule publication, à mon avis, qui est anticolonial. Mais ils sont anticoloniales pourquoi ? Ils sont anticoloniales pour des raisons de politique intérieure. Ils sont contre les institutions dominantes, à savoir l'église, l'armée, l'école. Donc ils vont taper sur l'armée coloniale, comme ils taperaient en quelque sorte sur l'école. Donc c'est pas du tout, ça réfère pas du tout à une dignité des civilisations qu'on viendrait instrumenter, bafouer.
Oui, un universalisme humaniste, etc.
Voilà, tout à fait. Et je crois qu'il faut bien se replacer dans la fin du 19e siècle. C'est une autre société, c'est un autre monde qu'on a du mal à pénétrer parce que on vit dans une société aujourd'hui qui est démocratique et dont on ne mesure pas bien finalement le poids à la fois de l'européocentrisme qui ne se discute même pas. Je veux dire, à cette époque, à la dernière tiers du 19e siècle, il n'y a même pas une question qui peut se poser là-dessus. La civilisation occidentale, le progrès technique, c'est la civilisation qui doit dominer le monde. Et c'est comme ça. Et personne n'y trouve à redire.
On s'en souvient du discours de Jules Ferry, le fameux discours de Jules Ferry sur la supériorité blanche.
Voilà, mais... maintenu le même 40 ans plus tard.
C'est le jour de l'apothéose. Derrière leurs chefs à cheval, nos héros dans le matin rose marchent vers l'art. Triomphale. Déridant son front redoutable, voici Foch à l'œil sibyllin. Pourquoi n'est-il pas connétable, notre moderne Duguesclin ? Près de lui, Joffre, en qui s'incarne le miracle du premier jour, alors qu'il dicta sur la Marne son légendaire demi-tour. Voici l'ex-généralissime, le vainqueur de Verdun, Pétain, complétant le trio sublime qui fixa France son destin. Près d'eux, un crêpe sur sa manche, voici le sauveur de Nancy, Castelnau, qui tient la revanche de ses deuils cornéliens. Voici ceux qui changèrent en déroute le dernier assaut du Kaiser. Maître, Payol, Humbert, De Goutte, Debney, Gérard, Hirschauer. Voici l'entraîneur énergique au profil de César Alfier, Mangin, le compagnon d'Afrique de Marchand et de Baratier. Mangin.
Mangin. Mangin chanté par Paul Desroulèdes, que Prévert haïssait entre autres, ce chantre terrible qu'était Paul Desroulèdes. Alors, Mangin le boucher des Noirs, ça c'est notre regard d'aujourd'hui, regard antiraciste, anticolonialiste, antimilitariste, mais Mangin, dans son temps, au contraire, a pu être vu comme un humaniste, l'humaniste qui veut permettre aux indigènes de s'émanciper en donnant leur sang pour la patrie. Après avoir longtemps occulté le rôle des troupes coloniales, on a eu tendance, ces dernières années, en revanche, comme un peu pour se rattraper, à faire de ces troupes les premières victimes de la grande boucherie. Eh bien non, les troupes coloniales furent, elles aussi, ces gens venus des colonies, furent victimes de cette boucherie, comme les autres, comme les pioupiou, comme les poilus, comme ce peuple français.
Je crois qu'il faut revenir sur le mythe du parce que là aussi c'est un mythe qui aujourd'hui obscurcit totalement la vision qu'on a de l'histoire des tirailleurs. L'idée du rideau de corps noir massé devant les mitrailleuses allemandes, c'est un mythe. Là aussi c'est un mythe de la propagande militaire d'ailleurs, parce que pour montrer que finalement ces soldats participent. Mais évidemment, comme Nicolas l'expliquait, on voyait pas ça du tout. De la construction des mythologies et des cartes postales à l'époque n'était pas celle du regard qu'on porte aujourd'hui. C'est-à-dire que si à l'époque on pouvait montrer le tirailleur en avant avec son coupe-coupe, c'était pas du tout pour montrer combien on l'exploitait, c'était au contraire pour montrer la grandeur et la générosité dont on témoignait à son égard, de le faire participer comme le poilu, au même rang contre la bête allemande. Donc c'est tout à fait l'inverse. Hey. Hein. Et tout ça a conduit, parce qu'il y a eu une propagande énorme, je vous disais, je collectionne les documents sur les tirailleurs de toutes origines, pour une carte postale de tirailleurs marocains, on trouve une ou deux cartes postales de tirailleurs indochinois, et on trouve 10 cartes postales de tirailleurs sénégalais. Ça a fasciné. Les tirailleurs sénégalais fascinaient les populations. Ça les fascinait. C'était sans doute la touche d'exotisme qui permettait de gommer vraiment les horreurs de la guerre. Hein. Puis la propagande atteignait un stade tellement stupide que là, tout d'un coup, à travers l'autre, les visions exotiques, on pouvait à bon compte à la fois grandir ces héros et puis parler de la guerre sans souci.
Est-ce que c'est à ce moment-là qu'apparaît l'image du Yabon Banania?
Ah oui, bien sûr.
C'est pendant la guerre de 14.
C'est pendant la guerre. Il y a
1915, je crois.
Il y a eu un coup absolument génial. Il y avait un fabricant de chocolat en poudre et de cacao et de poudre de banane, qui était un pharmacien ou un industriel qui était basé à Courbevoie. Et à Courbevoie, il y avait d'immenses casernements dans lesquels on cantonnait les tirailleurs. Et il les a vus passer. Et puis, il cherchait un slogan. Et à l'époque, faut pas oublier que le langage de diffusion au sein des tirailleurs, parce que alors, là aussi, vous savez qu'on les appelle tirailleurs sénégalais, c'est une erreur. On les appelle tirailleurs sénégalais parce qu'ils ont été créés au Sénégal par Federbe en 1857. Mais en réalité, très vite, le recrutement au Sénégal lui-même s'est tari. On est allé recruter des populations réputées guerrières beaucoup plus loin, en particulier ce qui est aujourd'hui la Haute-Volta et le Mali, des populations Bambara ou Mossi ou Malinké ou Sara. Ces populations parlaient des langages totalement différents et il fallait bien trouver un moyen terme. Alors on a inventé ce qu'on appelait le Moyadi, parce que la plupart des tirailleurs étant des Bambara, on s'était aperçu, il y avait un brillant linguiste colonial qui avait aperçu que le préfixe ya bon ou ya pas bon, ça correspondait à plus ou moins des choses qu'on retrouvait dans la sonorité du Bambara. Et donc on a créé des lexiques, hein, j'en ai plein, dans lequel on explique comment, à la fois il faut pas parler petit nègre, mais en même temps, donc en préambule, il y a toujours le petit nègre doit être proscrit, mais en même temps on explique que ça y a bon, ça y a pas bon.
Beaucoup y en a gagné croix la guerre, beaucoup y en a gagné médaille militaire, beaucoup y en a gagné légion d'honneur, tout bataillon sénégalais y en a bon, tout y en a battre beaucoup fort. Voilà, ça c'est des leçons pour apprendre aux militaires français à s'adresser aux Sénégalais.
Et puis aux Sénégalais entre eux aussi. Aux Africains entre eux, puisque étant de recrutement extrêmement varié, fallait aussi qu'il y ait un langage commun. Donc ça, c'est le langage commun de la République.
Série de leçons, là je lisais des extraits de la 91e leçon, mais si je prends la 58e leçon, manière de porter un pli à un officier, alors, quand tirailleur, il y en a recevoir papier pour porter officier, il y en a arrivé dans son case, il y en a arrêté à six pas, il y en a salué lui, il y en a gardé papier main gauche, il y en a avancé côté lui, ensuite il y en a faire demi-tour, il y en a partir. Voilà.
L'opération est terminée. Sur le langage petit nègre, c'est extrêmement intéressant de voir comment ça s'institutionnalise dans l'armée, Eric vient de le dire, et c'est très intéressant de le comparer à la situation linguistique concrète de l'Afrique de l'Ouest et des différentes ethnies qui sont agglomérées en fait au territoire sénégalais, puisqu'il y a des langues véhiculaires en Afrique de l'Ouest qui sont parlées par de très nombreux tirailleurs. C'est souvent, on est fasciné d'ailleurs quand on va en Afrique de voir la capacité, le polyglottisme. Ah souvent, oui. Les Africains parlent 4-5 langues. Mais pour eux, dans une société de l'oralité, c'est totalement normal. Donc, un grand nombre de tirailleurs apprennent un français très, très châtié en quelques années, mais continuent à avoir ce langage de communication à l'intérieur de l'armée parce que je crois que c'est devenu aussi un instrument, c'est devenu un marqueur institutionnel aussi. C'est devenu un marqueur institutionnel qui distingue les tirailleurs sénégalais des autres corps de l'armée. On le voit très bien dans la propagande coloniale, c'est vrai, à partir de 1915, l'apparition du tirailleur Yabon et ce langage du petit nègre qui va se répandre dans les représentations des tirailleurs sénégalais, mais aussi des Africains, ça va servir de marqueur culturel, en fait, et de distinction à notre avantage par rapport aux populations africaines.
À partir de quand, pour revenir au travail de Nicolas Bancel, celle sur l'anticolonialisme, à partir de quand est-ce qu'on considère que cette image du Yabon est raciste? C'est très récent, c'est il y a 20 ans, 30 ans, non?
On la considère pas encore comme raciste. Je vous rappelle
la
que
marque
Banania...
vient de rééditer ses voilà.
Donc c'est pas du tout quelque chose qui est diabolisé. Ça, elle a été à un moment, je pense, dans les années 70, un moment où l'anticolonialisme s'est confondu avec le tiers-mondisme et il y a eu une prise de conscience antiraciste, mais je dirais une prise de conscience finalement très superficielle qui s'est armée comme ça de symboles sans penser leur signification historique, et aujourd'hui ça a complètement disparu. Donc moi ce qui me marque aujourd'hui justement, c'est la capacité qu'on a à renouveler ce type de figure, non seulement dans une marque comme Banania, mais aussi, je sais pas, vous avez, je crois qu'il y a une entreprise qui s'appelle la Maison Coloniale, vous avez des bars coloniaux qui sont ouverts dans plusieurs villes en France, il y a toute une mode vestimentaire coloniale de baroudeurs qui dit telle quelle, je veux dire, donc la colonisation, au contraire, elle retrouve une nouvelle vigueur, une nouvelle, je dirais, virginité, parce que, sans doute, et ça c'est mon vieux credo, mais je le redis encore une fois ici, sans doute parce qu'on n'a pas fait encore, je crois, l'analyse complète de ce que la colonisation a produit sur notre culture, et entre autres, c'est effectivement ces figures racistes dont Yabon fait partie, bien sûr.
Une petite balade, carnaval au jour à la. Au pays où les peuplades tossent la boboula. Les petites aigresses devant le roi de l'allégresse dirent tout à coup sous ses boutons pas de la boue. C'est celui de la cabane de bambou qui jouait de la flûte en la cajou. Anis où s'amusent les nababs, il a fait la nouvelle. Danser sur ce petit air qui jase, comme Joséphine Baker sans gaz. Carnaval ce soir blanchit les idées noires. Et avant, y a bon, c'est le refrain des grillons. Les palmiers sous les dattes, c'est le carnaval négro. On peut voir ça vous épate, tout noir même Pierrot. Et les jouvents saines, habillés de peau naturelle, disent non vraiment, carnaval c'est du scomprêto. Que les femmes portent de la peau de serpent et qu'elles dansent le tutu pompon. C'est le jazz avec ses rythmes fous qui te ramène chez nous. Viens. Danser sur ce petit air qui jase, comme Joséphine Baker sans gaz. Carnaval ce soir blanchit les idées noires. Y'a bon, c'est le refrain des grillons.
Revenons au général Mangin, là, on l'a laissé en panne. Donc, il n'est pas le boucher des Noirs, c'est clair.
Non.
Donc, le soldat inconnu n'est pas noir.
Personne ne peut le savoir. Vous savez qu'il y a eu des mouvements coloniaux dans les années 20 qui ont protesté contre l'idée du soldat inconnu en disant « et si jamais il n'était pas blanc ?» C'est-à-dire que les mouvements d'anciens combattants, certains d'entre eux se sont posés la question quand on a eu cette idée, en disant « c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas un Français. »
Alors, mais Mangin, s'il n'est pas le boucher des Noirs, il est quand même le boucher de Verdun. Je parle de sa réputation.
C'est sa réputation. Je crois qu'il faudrait davantage, après, s'entourer des avis des historiens de la bataille de Verdun pour savoir quelle est la part qu'a pu prendre Mangin à ces opérations. Simplement, le fort de Douaumont a été repris par le RICM, par le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, sous le commandement de Mangin en 1917. Et à l'époque, les bataillons étaient devenus mixtes. C'est-à-dire qu'on, comme on avait vu que les bataillons de tirailleurs sénégalais tout seuls, ça marchait pas bien, on les a mélangés. On a fait des unités mixtes, moitié européens, moitié sénégalais. On s'est dit, ces Africains, ils sont merveilleux soldats, mais il faut les encadrer. Et donc, ceux qui ont participé à la reconquête de Douaumont, entre autres, et la bataille de Verdun, puis après, plus tard, à la contre-offensive et à la défense de Reims, ça a été des unités mixtes. Je crois pas que Mangin, ou en tout cas, c'est tout le procès de la Grande Guerre qu'il faudrait refaire, c'est au-delà de mes compétences.
Alors, il était présent au Chemin des Dames.
Oui, bien sûr, il a des grands commandements sous Nivelle. Ensuite, pendant effectivement la reconquête, il a des grands commandements jusqu'à la fin de la guerre d'ailleurs. Hein. Ensuite, il dirige les troupes françaises d'occupation en Allemagne, en Rhénanie, au moment où d'ailleurs se déroule cette campagne de la honte noire suscitée par les mouvements nationalistes allemands. C'est intéressant d'ailleurs de voir que là aussi, il a la responsabilité des corps d'occupation en Allemagne à l'époque où les Allemands reprochent finalement de la façon la plus forte dans l'histoire franco-allemande la présence de troupes noires.
C'est ça la honte noire.
La honte noire, ça c'est une campagne qui sort à partir de 1919. Vous savez que la France fait occuper l'Allemagne parce qu'elle a comme troupes d'actifs, c'est-à-dire aussi bien des Malgaches que des Marocains, que des Nord-Africains, que des Africains. Et très vite, vous savez que les Allemands qui estiment qu'ils n'ont pas perdu la guerre, beaucoup, une grande partie de la publique et les mouvements nationalistes dont vont émerger les mouvements plus tard nazis, disent que ces soldats violent les femmes allemandes. Et donc il y a une énorme campagne avec des médailles en bronze qui représentent un énorme sexe sur lequel est attachée une Valkyrie blonde. Il y a des films, il y a des cartes postales. Il va y avoir une commission d'enquête. Il ne faut pas oublier que les Allemands, à l'époque, ne visent pas tellement à embêter les Français, ils visent à toucher l'opinion publique internationale, en particulier les Américains. C'est l'époque où les Français ont mené la guerre du droit, ils ont vaincu dans la guerre du droit. C'est le moment où le traité de Versailles, les Allemands sont en train de prouver qu'ils n'ont pas été des barbares qu'ils étaient pour les dommages de guerre. Et donc, à la barbarie présupposée qu'on leur plaque dans les négociations de Versailles, eux vont dire, mais la France en a une bien plus forte, regardez, elle est littéralement en train de livrer nos femmes aux sauvages. Et donc, Mangin est à nouveau commandant en chef à ce moment-là. Et donc, il va évidemment prendre très vigoureusement la défense de ses troupes. Il va y avoir une commission d'enquête française qui va conclure au contraire que ce sont les femmes allemandes, aujourd'hui on les qualifiera encore autrement, qui harcèlent les malheureux tirailleurs, innocents, incapables de voir où les mènent les erreurs d'essence. Enfin,
Comment finit Mangin ?
Et il est mort de mort...
Il avait 9 enfants, j'ai lu ça.
Il avait 9 enfants, il est mort, je crois, en 1924 ou 1925.
Enfin, il meurt le 12 mai 1925, suite à un repas bien arrosé.
Voilà, absolument. Et donc, on a longtemps conclu un empoisonnement. Il y a eu toute une thèse qui a conclu au fait que...
Il aurait été empoisonné par l'extrême droite allemande.
Absolument. Bah oui, à cause de ses campagnes de la honte noire, parce que c'était le père des tirailleurs. Donc, il a payé, lui, doublement. En tout cas, s'il était empoisonné par l'extrême droite allemande, il a payé le prix de la force noire.
Alors, il était parti du boucher des Noirs et le voilà victime.
Absolument.
En tout cas, une heure après, à la fin de cette émission, Mangin, qu'on voyait comme un monstre, comme un salaud, comme le boucher des Noirs et le boucher de Verdun, est une innocente victime
c'est un peu trop.
L'Empire allemand.
Et vous êtes extrêmement fier d'être amené du général Mangin.
Merci à tous. C'était des entretiens de 2004 avec Nicolas Bancel et Éric Dereau. La République coloniale, essai sur une utopie de Nicolas Bancel, c'est aux éditions Albin Michel. Et Livre noir sur le colonialisme de Félicien Chalet, c'est aux éditions Les Nuits Rouges. Et puis en commençant, j'ai cité le bouquin préfacé par Elika Mbokolo, avec une contribution d'une série de chercheurs, d'historiens et de chercheurs africains notamment, sous la direction d'Adama Bakonaré. Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy. C'est aux éditions de La Découverte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire les commentaires que vous souhaitez, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, vous pouvez réécouter et faire tous les commentaires, là aussi, que vous voulez. À la technique, Sandrine Laurent et Sophie Moreno, c'est Coyenne Guyenne et Raphaël Moutarde qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Agnès Le Bot. Attend vos messages sur le répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.